Je vais présenter donc le dernier conférencier ce soir. Il s'agit de Jean-Loup Risler qui va nous parler d'informatique et génomique. Il est biophysicien et bioinformaticien, directeur de recherche au CNRS. Sa formation, c'est d'abord un diplôme d'ingénieur de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève. Il est doctoresse sciences, spécialité biophysique, obtenu à la faculté d'Orsay en 1973. Il a ensuite poursuivi des recherches en biologie moléculaire à Cambridge. Pendant une dizaine d'années, il a travaillé à l'étude structurale des protéines par diffraction des rayons X. Puis, à partir de 1985, il commence des travaux de bioinformatique sur les séquences et participe la même année, en collaboration avec Alain Hainaut, à la création du DESS informatique appliquée à la biologie. En 1995, il crée avec Alain Hainaut le laboratoire génome et informatique à l'Université de Versailles. Et en 2001, ce laboratoire rejoint la Génopole d'Evry. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales, comme on dit. Ses travaux portent sur l'évolution des protéines, l'étude des séquences protéiques déduites des séquences génomiques, l'annotation des séquences génomiques par homologie, et puis il va nous en parler lui-même avec beaucoup plus de compétences que je ne pourrais le faire. Voilà, je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite nous pourrons lui poser nos questions. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. L'université de tous les savoirs, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Arriver à mettre 450-500 personnes dans un amphi à 24 juillet, par le temps qu'il fait, pour écouter un illustre inconnu, c'est quand même ahurissant. J'ai pris comme un honneur le fait d'être invité à faire une présentation ici. J'ai essayé de faire un topo le plus didactique possible, mais je vous préviens, mon topo sera partial et partiel. Il sera partiel parce que je ne sais pas tout. Il sera partiel parce qu'en 50 minutes, je n'ai pas le temps de tout raconter. Et il sera partiel parce que c'est moi qui parle et pas quelqu'un d'autre. Donc, ce sont mes fantasmes dont je vais vous parler. Alors, on va commencer par définir rapidement les choses, génomique et informatique. Alors, la génomique, on peut dire simplement que ça consiste à séquencer un génome complet. On verra ce que c'est que le séquençage, on en reparlera. Et ensuite, à partir de cette séquence, d'en tirer le plus de choses possibles. On entend souvent et on lit souvent que nous sommes entrés dans l'ère du post-génomique. C'est idiot. Nous sommes entrés à coup sûr dans l'ère du post-séquençage. Le séquençage ne pose plus de problème, la technique est au point, on peut séquencer maintenant un génome bactérien en une semaine. En revanche, on est en plein dans le génomique, on n'est pas dans le post, on est en plein dans le génomique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre tout ce qui peut se passer dans un génome à partir de la séquence. La bioinformatique, c'est simple, enfin je le définis simplement, c'est tout ce qui concerne de près ou de loin le traitement par ordinateur de données biologiques. Comme ça, je ne vexe personne. Les biologistes ont tendance à considérer l'informatique comme un outil, ils n'ont pas tort. Les informaticiens, les vrais, font de la recherche en informatique, et cette recherche en informatique peut servir aux biologistes. Je mélange tout, dès qu'on traite des données biologiques, on fait de la bioinfo. Alors, vous le savez certainement, le génome d'un individu, c'est le matériel génétique qui est transmis de génération en génération et qui contient toute l'information nécessaire au développement de l'individu. Le génome, c'est en général, on appelle ça plutôt les chromosomes, si vous voulez. Et vous le savez, les chromosomes sont des énormes molécules qui sont constituées d'un enchaînement de ce qu'on appelle des bases nucléiques. Il n'y a que quatre bases bien connues, adénine, cytosine, thymine, guanine, comprenantes par lettre ATGC. Et donc, séquencer un chromosome, c'est déterminer l'ordre précis de l'enchaînement de ces lettres dans la molécule du chromosome. Imaginez quand même que le génome humain, si on pouvait l'isoler et tirer les molécules, les 23 chromosomes, on aurait une molécule d'une finesse extraordinaire et d'une longueur d'un millimètre. Tout ça étant compacté dans une cellule qui fait quelques dizaines de microns. Rien que ça, déjà, ça pose des problèmes assez insolubles. Mais donc, le problème du séquençage, c'est d'abord de déterminer l'enchaînement de toutes ces lettres, l'ordre précis. Quelques idées d'abord sur la taille des génomes et des chromosomes. Les mycoplasmes, par exemple, qui sont des petites bactéries, en général pathogènes, ont des petits génomes de l'ordre de 600 à 800 000 bases. Si on passe aux bactéries, comme le colibacille, c'est de l'ordre de 4-5 millions. Si on passe aux organismes pluricellulaires, le nématode, qui est un petit ver minuscule d'un millimètre, la drosophile, qui est la mouche préférée des généticiens, Arabidopsis thaliana, qui est une mauvaise herbe, tout ça, ce sont des organismes pluricellulaires, qu'on appelle des eucaryotes. Vous voyez, ça tourne autour de 100 millions. Et l'homme arrive à 3 milliards 400 millions de bases. On a l'impression, quand on lit dans l'ordre dans lequel je l'ai mis, qu'il y a une logique, et que plus l'organisme est complexe, et plus le génome est grand. C'est totalement faux. Vous voyez qu'il y a une amibe. Une amibe, c'est donc un organisme monocellulaire, une petite bestiole de rien du tout, et son génome a une taille invraisemblable de 670 milliards de bases. Hein ? Je n'ai pas l'impression qu'une amibe soit 200 fois plus intelligente que vous ou moi. Si on prend les plantes aussi sont très spécialisées pour avoir des génomes gigantesques. L'oignon, par exemple, le génome de l'oignon fait à peu près 60 milliards de bases. Autrement dit, rien qu'à la vue de ces chiffres-là, on retombe tout de suite dans l'expression chère à François Jacob, c'est le bricolage de l'évolution. L'amibe est contente avec 670 milliards de bases. Pourquoi il y a autant? Personne n'en sait rien. À quoi ça sert? Personne n'en sait rien. Elle est contente comme ça, c'est le bricolage de l'évolution et ça marche comme ça. Si maintenant on parle des gènes, vous savez que les choses les plus importantes dans un génome, ce sont les gènes. Pourquoi? Les gènes, c'est une portion du chromosome qui va être traduite en protéines. Les protéines, ce sont des constituants absolument essentiels d'une cellule. Ça fait par exemple les muscles, ça fait les immunoglobulines qui vous permettent de vous défendre contre des agressions, ça fait les enzymes qui sont des catalyseurs qui permettent de faire tout le métabolisme dans une cellule. Donc sans protéines, il n'y aurait pas de vie, c'est clair. Et ce sont les gènes qui sont traduits en protéines. Et il y a, on appelle ça une traduction, la séquence du gène en acide nucléique est traduite en séquence de protéines en acides aminés. La séquence d'une protéine est le reflet exact de la séquence du gène. Et quand on a une mutation dans un gène, ce qui se passe en général, c'est que la protéine correspondante change quelque part, il y a un acide aminé qui change, et la protéine ne fonctionne plus. Alors si on regarde la taille des génomes en nombre de gènes, bon, les mycoplasmes, c'est petit, se contentent de 5 à 700 gènes. Une bactérie, comme colibacille, se contente de 4000 à 4500 gènes. Dès qu'on tombe dans les organismes pluricellulaires, là, il y a une barrière. Vous voyez, le nématode, la drosophile, l'arabidopsis, la mauvaise herbe, et puis et nous-mêmes, oh, ça tourne autour de quelques dizaines de milliers de gènes, pas plus. Et ça, c'est, enfin, d'un point de vue, c'est tout à fait intéressant, parce que ça remet bien les choses en place. L'homme n'a pas 10 000 fois plus de gènes qu'une bactérie. L'homme, ou qu'un ver de terre. L'homme, il a 2 à 3 fois plus de gènes qu'un ver de terre. Ça remet les choses en place, d'une part, et d'autre part, ça permet de couper court au réductionnisme qui avait un petit peu trop court chez les généticiens, à savoir, j'étudie un gène, et c'est mon gène que j'étudie, et c'est pas un autre, et c'est celui-là qui est important. Le fait qu'un organisme aussi compliqué qu'un homme ou une femme n'est que 2 fois plus de gènes qu'un petit ver de terre, montre que ce n'est pas le nombre de gènes qui est important, ce sont les interactions entre tous les gènes. Toutes les régulations très compliquées qui font qu'un organisme comme une vache arrive à pousser avec les cornes devant et pas derrière, etc. Et bien entendu, le fait de séquencer un génome complet nous donne l'espoir qu'un jour, on pourra comprendre toutes les interactions qui existent entre tous les gènes et tous les facteurs variés dans une cellule. Maintenant, comment est-ce qu'on repère un gène? Eh bien là, c'est un véritable problème, parce que quand on a un texte comme la séquence d'un génome, ici j'ai mis un texte avec les 26 lettres de l'alphabet, alors qu'il n'y en a que 4 dans un ADN, mais ça ne change pas grand-chose. Les gènes sont extrêmement bien cachés, et rechercher un gène dans un génome, ça revient à rechercher quelque chose comme ça, où il y a un petit message, là, je suis un gène important, qui est caché complètement, qui est noyé dans le bruit de fond. Et c'est là où, entre autres, l'informatique joue un rôle absolument décisif. Il est totalement impossible, évidemment, à l'œil, de lire un texte de 3 milliards de lettres, mais à l'œil, il est impossible de repérer où sont les gènes. Un petit historique rapide. Le 24 mai 2001, donc il y a 2 mois, On connaissait les séquences génomiques complètes de 10 archébactéries, on y reviendra, de 41 bactéries et de 6 eucaryotes. Les eucaryotes, c'est nous, c'est les animaux, ce sont les plantes, ce sont les insectes. Et ce qui donne le vertige, c'est qu'il y a ici 208 génomes bactériens en cours de séquençage. Et une cinquantaine, pas 150, parce qu'ils comptent un chromosome par génome, et une cinquantaine d'organismes pluricellulaires. Ça donne le vertige, non pas par la quantité des données, les données en quantité ne sont pas gigantesques, 3 milliards de lettres, ça tient facilement dans mon PC qui est là. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à analyser correctement. Les séquences génomiques tombent trop vite, ça arrive trop vite, c'est devenu trop facile de faire des séquences, et l'analyse n'arrive pas à suivre. Ça, c'est vraiment un gros problème. Alors, où se place l'informatique dans le séquençage, puis dans les séquençages et la génomique, puisque je dois parler génomique et informatique. Ça commence très tôt. Ici, c'est la photo du Génoscope, le Centre national de séquençage à Évry. Ces petites boîtes-là, ce sont des séquenceurs automatiques. Il y en a une cinquantaine à Évry. Dans les gros centres comme le Sanger Institute en Angleterre ou Celera aux États-Unis, il y en a à peu près 10 fois plus. Ces centres de séquençage sont des usines qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les séquenceurs sont alimentés en permanence en matériel biologique et les séquences débitent en permanence. Et bien entendu, l'informatique commence là, et ce n'est pas si facile que ça. Il est bien évident qu'il est très important de savoir quel échantillon biologique j'ai mis dans le séquenceur numéro 27 le 14 avril à 14h30. Si je ne sais pas d'où vient ce qui sort d'un séquenceur, je ne risque pas de faire la séquence correctement. La séquence proprement dite qui sort du séquenceur, elle est également déterminée totalement automatiquement. Ici, on a des pics de chromatographie qui sortent du séquenceur, et c'est l'ordinateur qui en déduit la séquence. En principe, on ne revient quasiment jamais là-dessus, sauf s'il y a un problème, il faut regarder à l'œil. Mais dans la plupart des cas, on ne regarde pas. Ceci dit, personne ne sait séquencer d'un seul coup un chromosome entier. Ça, on ne sait pas faire, les machines ne savent pas faire. Ce qu'on sait faire, c'est séquencer des petits morceaux de l'ordre de 500 à 1000 bases de long. Donc, pour pouvoir séquencer un chromosome entier, je suis forcé de le couper en petits morceaux, d'isoler ces petits morceaux et de séquencer ces petits morceaux. Si maintenant j'ai séquencé chaque petit morceau ici, je ne suis pas plus avancé, parce que rien ne me dit que ce morceau-là est à gauche de celui-là, et rien ne me dit que ce morceau-là est à droite de celui-là. Donc, je suis obligé de redécouper mon chromosome d'une manière différente, en petits morceaux, mais pas les mêmes, de séquencer ces petits morceaux et de comparer tous les petits morceaux. Et ce faisant, je vais m'apercevoir, par exemple, que si je regarde le petit morceau rouge et le petit morceau bleu, je vais m'apercevoir que la fin du morceau rouge ici est la même chose que le début du morceau bleu ici. Donc, je peux les superposer et je viens d'allonger la séquence. Je viens d'allonger à droite la séquence du morceau rouge et je viens d'allonger à gauche la séquence du morceau bleu. C'est comme ça que ça marche. Et c'est là où l'informatique a le rôle le plus important, peut-être pas conceptuellement, mais à coup sûr en temps de calcul et en puissance de machine. Supposons le génome humain, c'est 3 milliards de bases. Supposons que je l'ai coupé en petits morceaux de 1000 bases chacun. Ça me fait 3 millions de petits morceaux. Comme on a vu, il faut que je répète l'opération au moins 2 fois, au minimum. En fait, on le fait 6, 7, 8, 10 fois. Il faut que j'ai au moins 2 fois 3 millions de bases pour pouvoir voir les recoupements qu'il y a ici. J'ai donc 6 millions de segments. Et bien, si je veux comparer les séquences de tous ces 6 millions de segments entre elles, de façon à repérer les régions ici qui se correspondent, ça me donne le chiffre astronomique de 18 000 milliards de comparaisons. Et c'est là où l'informatique joue le rôle massivement le plus important, mais c'est également crucial, parce que c'est clair que si l'informatique se trompe dans l'assemblage de ces petits morceaux ici, la séquence sera fausse. Une fois que donc on a assemblé, surtout grâce à l'informatique, les petits segments pour avoir les séquences complètes, on va à la pêche aux gènes. Aller à la pêche aux gènes, c'est encore l'informatique qui fait ça. Chez les petites bestioles, chez les prokaryotes, chez les bactéries, c'est relativement facile parce que les gènes sont tout d'une pièce. On les repère assez facilement. Chez les eucaryotes, les plantes, les animaux, nous en particulier, les gènes ont le mauvais goût d'être coupés en petits morceaux. Et un gène donné, qui ira de là à là, peut être découpé en 3, 4, 5, 10, 15, 100 morceaux. Et le problème, c'est de repérer les morceaux qui sont ici, qui s'appellent des exons, de virer ce qu'on appelle les introns, pour arriver finalement à la séquence finale qui sera la séquence de la protéine. Et ça, on sait très mal faire. La cellule, elle, le fait très bien. La cellule, il y a une machinerie extrêmement compliquée qui enlève tous les introns, qui raboute tous les exons pour faire un ARN messager qui sera traduit en protéine. Nous, on ne sait pas le faire, ce qui prouve qu'on ne comprend pas comment ça se passe. Si on se comprenait bien comment ça se passe, on saurait le modéliser et donc on saurait prédire les gènes. Et ça, on ne sait pas. On le fait, bien sûr, il y a des prédictions, mais elles sont encore vraiment... Bon, disons qu'en gros, il y a une erreur sur deux, quoi, à peu près. Là, il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. La plus grande surprise qu'on a eue quand on a connu des séquences complètes de génome, c'était en 95 avec une bactérie, en 96 avec la levure, donc c'est, tout ça c'est très récent, ça a été de constater que beaucoup de gènes dans un organisme ne ressemblent à rien de connu. Ici, c'est un petit schéma où les couleurs indiquent les rôles des protéines codées par les gènes chez l'homme. Par exemple, ici, les protéines qui sont en bleu, ce triangle-là, ce sont des protéines qui se fixent à l'acide nucléique, pour des fonctions variées. Les protéines qui sont ici en bleu clair, ce sont des protéines transporteurs qui facilitent le transport, l'échange de molécules entre le milieu extérieur et l'intérieur de la cellule. Et ce qui est en violet ici, qui représente 42% non total de gènes, ce sont des gènes, on pense qu'ils existent parce qu'on les a repérés dans la séquence du génome, ce sont des gènes dont on n'a aucune idée de la fonction. Ils ne ressemblent à rien de connu et on ne connaît pas leur fonction. Si on regarde Arabidopsis thaliana, toujours cette mauvaise petite herbe, mais qui a le bon goût d'avoir un petit chromosome pour une plante, c'est pareil. Il y a à peu près de l'ordre de 40% des gènes de cette plante dont on ignore complètement le rôle. Et c'est là où on peut faire la différence, la vraie différence entre la génomique et la génétique. La génétique, ça consiste à observer un phénotype, c'est-à-dire une manifestation physique lisible, claire, d'un organisme, par exemple, savoir si une bactérie est blanche et puis d'un seul coup elle mute, elle devient bleue, si une bactérie devient résistante à un antibiotique, un génotype, ça sera quelqu'un qui a les yeux bleus, quelqu'un qui a les yeux verts, etc. J'observe une caractéristique physique d'un organisme et je cherche quel est le gène ou le ou les gènes responsables de cette caractéristique. C'est ça la génétique. Avec la génomique, on est dans le cas strictement inverse. Je sais que j'ai sous les yeux la séquence d'un gène, je n'ai aucune idée de sa fonction. Et donc je vais essayer de déterminer sa fonction et d'essayer de trouver quel est le phénotype associé à ce gène. On raisonne en sens inverse et on travaille en sens inverse. Et pour faire ça, en général, le plus simple, c'est de casser le gène auquel on s'intéresse dans l'organisme et de regarder les conséquences. Ce n'est pas gagné d'avance, parce que très souvent, l'organisme meurt, donc c'est létal, on n'est pas plus avancé. Et le plus souvent, il ne se passe strictement rien. Et il ne se passe strictement rien ne veut pas dire que le gène est inutile. Ça veut dire qu'on ne sait pas faire pousser la bactérie, par exemple, s'il s'agit d'une bactérie, on ne sait pas la faire pousser dans des conditions dans lesquelles ce gène va s'exprimer. Imaginez par exemple qu'on ait un gène pour la dent de sagesse. Supprimer le gène de la dent de sagesse des hommes et une femme et faites-leur faire des enfants. Eh bien, vous ne verrez pas grand-chose. Et ça m'étonnerait que vous attendiez 15 ans pour remarquer qu'ayant supprimé le gène, 15 ans après, il n'y a plus de dent de sagesse. Donc ce n'est pas parce qu'un gène, quand on le casse, qui ne s'exprime pas, qui ne se passe rien, qui ne sert à rien. Simplement, on n'a pas observé les conditions dans lesquelles il est utile. Et donc ça, c'est vraiment le boulot maintenant des biologistes moléculaires, c'est la génétique inverse, c'est d'essayer de comprendre à quoi servent ces 30% en gros de gènes dans chaque organisme dont on ignore la fonction. Alors, maintenant qu'on a parlé rapidement de séquençage, de génomique et d'informatique, maintenant je vais tomber dans mes fantasmes. Quelle est une des conséquences que je pense très importantes de la génomique ? Et en particulier de séquencer les génomes d'un très grand nombre d'organismes, c'est précisément que ça permet de comparer les séquences de ces génomes. Et comparer les séquences des génomes, comparer les séquences des gènes, comparer les séquences des protéines, ça permet de faire ce qu'on appelle de la phylogénie moléculaire, c'est-à-dire de reconstituer l'arbre généalogique du vivant. Alors, le principe, il est très simple. Ici, vous avez un petit morceau de séquence correspondant à l'hémoglobine, ou plus exactement à la chaîne alpha de l'hémoglobine, qui est le pigment rouge, qui est responsable du transport d'oxygène dans le sang et qui est responsable de la couleur rouge du sang, chez l'homme, chez le chimpanzé et chez le gorille. Et ce que je vais faire, je vais compter les différences entre le gène chez l'homme et le gène chez le chimpanzé. Et puis, je vais compter les différences entre, en bleu, je vais compter les différences entre le gène de l'homme et le gène du gorille, et puis je vais compter les différences entre le gène du chimpanzé et le gène du gorille. Donc, le principe est extrêmement simple. Supposons que j'ai observé 20 différences entre l'homme et le chimpanzé, entre le gène de la globine de l'homme et le gène de la globine du chimpanzé, 30 différences entre l'homme et le gorille, et 29 entre le chimpanzé et le gorille. Alors, je peux faire un arbre. Voilà l'arbre. C'est un arbre généalogique. Le temps est supposé aller de bas en haut. Ici, on a l'ancêtre commun à ces trois espèces. Cet ancêtre commun, à partir de cet ancêtre commun, on a eu divergence, deux espèces, et plus récemment, de nouveaux divergences, chimpanzés et hommes. L'idée sous-jacente, c'est que les mutations s'accumulent indépendamment les unes des autres et au même rythme chez les différents organismes. Donc, si deux organismes se sont séparés, si l'entraide commun est proche dans le temps, il y aurait eu peu de mutations qui se seront faites dans le gène de l'homme et du chimpanzé. Par contre, si la divergence s'est faite il y a très longtemps, eh bien, il y aura plus de différences entre le gène du gorille que de l'homme. Et avec ce genre de représentation, si ceci est vrai, alors j'en déduis que l'homme est plus proche du chimpanzé que du gorille. Un exemple pour de vrai, c'est grâce à la comparaison de séquences, pas forcément génomiques d'ailleurs, qu'on sait depuis 30 ans que le règne du vivant est divisé en trois royaumes et non pas en deux, comme on pensait avant. On a pensé longtemps que les seules espèces vivantes, c'était les eucaryotes, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les insectes, etc., et les bactéries, ici en jaune. En fait, il y a un troisième royaume qui est celui des archébactéries. Et les archébactéries sont des organismes monocellulaires, unicellulaires, qu'on appelle archébactéries parce que beaucoup d'entre elles vivent dans des conditions invraisemblables. Ça pousse à 100 degrés, ça vit dans des milieux tellement acides que vous laissez le petit doigt bouffer en une minute, ça vit à moins 20 degrés, enfin, ça, vraiment dans des conditions extrêmes. Et comme on pensait que la vie sur Terre, au début, les conditions sur Terre étaient des conditions extrêmement chaudes, etc., etc., on a pensé que les archébactéries étaient des restes des premières bactéries, des premières protobactéries qui existaient au tout début de la vie. En fait, on pense maintenant que plutôt l'ancêtre commun, vous remarquez que cet arbre ici, ce n'est pas un arbre, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine parce qu'on ne sait pas où est la racine. On ne sait pas où placer l'ancêtre commun. On admet généralement, mais sans preuve absolue, que l'ancêtre commun il est placé ici. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, notre ancêtre commun, il y aurait eu divergence. Une branche qui donne les bactéries, une autre branche qui donne les archébactéries et nous, auquel cas nous sommes cousins germains des archébactéries. L'autre hypothèse, c'est que l'ancêtre commun était ici, qui a donné les archébactéries et les bactéries et nous, auquel cas nous serions cousins germains des bactéries. Cette hypothèse-là, donc, c'était la prévalente au début, puisqu'on pensait que les archébactéries étaient des bactéries qui existaient au tout début. La plupart des gens maintenant pensent que l'ancêtre commun se situe plutôt ici, mais le débat est féroce et il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Il faut bien voir que c'est très difficile, ça. Ce qu'on fait, c'est d'essayer de reconstituer les séquences de nos ancêtres, jusqu'à quelques centaines de millions d'années, en connaissant uniquement les séquences actuelles. Donc c'est un petit jeu qui n'est pas évident. Autre exemple, c'est l'origine des populations humaines. Il y a deux scénarios qui sont en compétition. Le premier scénario qui s'appelle multirégional, qui dit qu'il y a 700 millions d'années à peu près, la Terre a été envahie par une population venue d'Afrique. Enfin, ce qui était l'Afrique à l'époque, puisque les continents n'étaient pas encore séparés. Et que nous serions tous descendants de cette première invasion. Par conséquent, les Africains sont restés chez eux. Nous, après, nous avons divergé, on a fait des Européens, des Asiatiques, etc., etc. Donc, nous sommes très éloignés des Africains, puisque ça fait 700 millions d'années que nous sommes séparés d'eux et que chacun a vécu sa vie, et que les gènes des Africains ont vécu leur vie, et nos gènes à nous ont vécu leur vie. Et dans cette hypothèse, nous sommes proches de l'homme du Néandertal. Vous savez que l'homme du Néandertal occupait l'Europe jusqu'à à peu près 30 000 ans, et qu'il y a 30 000 ans, il a disparu, supplanté par l'homme de Cro-Magnon. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse Out of Africa, où, il y a 700 millions d'années, on y aurait eu effectivement invasion de toute la Terre par population venue d'Afrique, mais cette invasion aurait été suivie, il y a 200 millions d'années, par une deuxième invasion. Et les descendants de ces Africains ici auraient supplanté les gens qui étaient présents sur place. Autrement dit, les gens qui sont arrivés ici ont supplanté l'homme du Néandertal. L'homme du Néandertal, lui, descendant de la première invasion, est très différent des autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à séquencer de l'ADN qui a été récupéré sur des os de fossiles d'hommes du Néandertal. Et par comparaison de ces séquences avec des séquences actuelles, il a été montré qu'effectivement, l'homme du Néandertal était plus éloigné de tous les autres hommes que n'importe qui parmi les autres hommes. Autrement dit, c'est ce scénario, si c'est vrai, qui serait vrai. Encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord. Encore une fois, les débats sont féroces, mais ce n'est pas grave. Que ce soit le premier ou le deuxième qui soit bon, ici, ce n'est pas important. Ce qui est important, je crois, c'est que vous voyez bien que l'accumulation des séquences génomiques, ce n'est pas uniquement pour le plaisir, mais ça peut nous apporter vraiment beaucoup de choses sur la compréhension de notre origine. Et il me semble que répondre à la question « qui suis-je et d'où viens-je » n'est quand même pas tout à fait anodin. Ceci dit, je ne réponds pas à la question « où vais-je ? » L'évolution n'est pas dirigée, donc je ne sais pas où je vais. Toujours avec des comparaisons de séquences, on peut faire des beaux arbres comme cela. Ici, c'est un arbre qui a été fait avec des séquences d'une protéine qu'on trouve partout, qui s'appelle le cytochrome C. Je pense que vous arrivez à lire. On voit ici la radiation des plantes et des animaux, ici la radiation des vertébrés, ici les reptiles, les oiseaux, les mammifères, etc. etc. Cet arbre est très beau, et en fait, c'est une horreur. C'est une horreur, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Ça, c'est vraiment un fantasme. D'abord, cet arbre laisse penser que l'évolution procède de façon régulière et belle, et qu'à partir d'un organisme, après d'une espèce, je fais deux espèces, puis cette nouvelle en fait deux, puis en fait deux, etc., etc. Ça, c'est faux. L'arbre de la vie, il est comme ça. Il est comme ça parce qu'il y a eu des tas de tentatives, il y a eu des tas d'espèces qui ont disparu à tout jamais. Il y a beaucoup plus d'espèces disparues qu'il n'y a d'espèces actuelles sur Terre. Ça, c'est absolument sûr. On sait, par exemple, qu'il y a 500 millions d'années, il y a eu une extinction massive des espèces vivantes sur la Terre. On ne sait pas pourquoi. Mais d'après les sédiments marins, on est à peu près sûr que plus de 80% des espèces marines ont disparu. Non pas de la population des mers, des espèces. Plus de 80% des espèces ont disparu. Et bien entendu, il y a le dinosaure. Ça, vous savez, il y a 60 millions d'années, les dinosaures qui étaient les maîtres de la Terre, il n'y avait pratiquement que les dinosaures sur la Terre, les dinosaures ont disparu. Donc, c'est plutôt toutes ces branches mortes ici qui représentent l'évolution. Beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives, beaucoup d'imagination et beaucoup de pertes. Il ne reste plus que ça qui est vivant. Pensez un peu que si les dinosaures n'avaient pas disparu, on ne serait sans doute pas là, parce qu'il n'aurait jamais admis qu'on prenne leur place. Si j'en reviens à cet arbre magnifique, il a un deuxième défaut. Ce deuxième défaut, c'est que il laisse toujours penser à cette évolution qui est belle, qui est grande, qui est généreuse, un petit peu une évolution de la Mickey. Ça, c'est une vraie évolution. Le Mickey des 1930 qui évolue vers le Mickey des années 50, et le Mickey qui évolue vers le Mickey des années 80. Ça, c'est un peu la même chose. Vous avez tous vu des images dans ce goût-là. Hein, l'ancêtre de l'homme et puis l'homme. Ce n'est pas complètement faux. Vraisemblablement, notre ancêtre ressemblait à un singe bipède, etc., etc. Ce qui est dangereux et vicieux là-dedans, c'est que ça donne l'impression d'une marche vers le progrès. On part d'un singe, comme ça, et on arrive à l'homme beau, grand, généreux et tout et tout. C'est pas vrai. Il n'y a pas de marche vers le progrès dans l'évolution. L'évolution n'a pas de direction. C'est de la sélection naturelle. Les organismes les plus adaptés à un milieu donné sont ceux qui sont choisis, et point final. Si brusquement la température passe de 20 degrés à moins 30 degrés partout, c'est évident qu'il y a des tas d'espèces qui vont disparaître. Et celles qui vont survivre ne sont pas forcément plus belles et plus intelligentes, elles sont simplement mieux adaptées. Donc cette marche vers le progrès, c'est quelque chose que je trouve très vicieux. Toujours le bel arbre qui est ici, qui a encore un autre défaut, c'est qu'implicitement le temps va de bas en haut. Hein, ici, notre ancêtre, à tous, et puis radiation des plantes et des animaux, et puis plus tard, radiation des reptiles et des mammifères, etc., etc. Si c'est vrai, pourquoi, diable, est-ce que le blé qui est ici n'est pas à la même hauteur que l'homme qui est là ? Un grain de blé que je viens de cueillir est contemporain. Donc, sur l'échelle du temps, il devrait être au même niveau que moi. Ici, j'ai représenté mon arbre généalogique. Alors, c'est clair que je n'ai pas besoin de séquencer mon génome pour faire ça, Mais cet arbre, il a le mérite d'être doublement vrai. Il a le mérite d'être vrai parce que les liens entre les individus sont corrects. Je suis bien lié à mes parents. Et surtout, les gens de même génération sont au même niveau, ce qu'il n'y avait pas dans l'autre arbre. Si j'ai un ego un peu surdimensionné, je pourrais faire un arbre comme ça. Il n'est pas complètement faux. Hein ? Et si j'ai un ego encore plus fort, je peux faire ça. Voilà, c'est vraiment toute ma famille que je sélectionne. Et j'insiste là-dessus, parce que ça, c'est un arbre des mammifères qui date de 1886. L'homme est ici, en haut à droite. Et ici, qu'est-ce qu'on trouve ? Les monotrèmes, c'est-à-dire, par exemple, les ornithorynques. Ce n'est pas complètement anodin. C'est clair que les ornithorynques se sont séparés des autres mammifères, il y a très tôt. Mais pourquoi est-ce que le pauvre ornithorynque, il est si bas ? Il est si bas, il est si bas. Il y a quelque chose derrière. Et je pense que vous me croirez sur parole, malheureusement, je n'ai pas retrouvé l'image. C'était une affiche qui était affichée à Paris dans les années 40, à une époque où certains faisaient l'exposition en disant « Apprenez à reconnaître les Juifs ». Et cette affiche, c'était une affiche censée reproduire l'évolution de l'homme. Et comme vous vous en doutez, en haut de l'arbre, l'arbre classique, le triangle, le cône qu'on a vu, en haut de l'arbre, il y avait l'Arien, beau, grand, généreux et blond. Et puis, en bas, en gauche à droite, les Juifs et les Noirs. Donc ça, vraiment, j'insiste bien là-dessus, parce que ce n'est pas anodin. D'accord ? Et j'espère, mais ça, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, j'espère que la génomique et l'accumulation des séquences permettra d'apporter un petit peu de clarté sur ces histoires de races et de montrer que les races inférieures et les races supérieures, ça n'a pas de sens. Qu'il y ait des races, moi, ça ne me dérange pas, mais supérieure et inférieure, c'est évidemment autre chose. Et ça, si la génomique n'y arrive pas, je me demande qui y arrivera. Alors, je change de sujet complètement. Et je passe à une deuxième conséquence que je pense très importante de la génomique, ce sont les puces à ADN, dont vous avez sans doute entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une puce à ADN ? Quelqu'un a séquencé le génome complet d'une bactérie. Avec l'informatique, j'ai repéré tous les gènes de cette bactérie. Ou si c'est la levure, par exemple, il y a 6200 gènes. Le biologiste moléculaire sait isoler un gène donné dans un tube à essai. Il sait faire une solution qui ne va contenir que des molécules, une partie de molécules du gène numéro 1. Il sait donc faire une solution qui va ne contenir que le gène numéro 2. Et évidemment, que le gène numéro 3, etc., etc. Alors, le biologiste moléculaire, ayant comme ça, si c'est la levure, il a 6200 petits tubes dans lesquels il y a un gène particulier, va prendre le tube qui contient le gène numéro 1, et puis il va déposer une petite goutte de cette solution sur une lame de verre préalablement traitée comme il faut. Et puis il prend le gène numéro 2 et il met la petite goutte à côté contenant le gène numéro 2. Et ainsi de suite, bien entendu, ici j'arrive au gène numéro 16, je continue, je viens de faire une puce à ADN qui contient 304 gènes. Ma puce à ADN, je la laisse sécher, je la mets dans un coin. Maintenant, je fais une manip où je vais traiter deux populations de cellules différentes. Alors, par exemple, ça pourrait être de la levure qui aura poussé avec du nitrate comme source d'azote, et puis de la levure qui aura poussé avec de l'ammoniac comme source d'azote. Quel est le but de la manip ? C'est de dire, eh bien, si je repère des différences dans les gènes entre ces deux cellules, je pourrais dire les gènes qui sont fortement exprimés ici servent au métabolisme du nitrate, les gènes qui sont fortement exprimés ici, enfin les protéines donc qui en découlent, servent au métabolisme de l'ammoniac. Bien entendu, vous pouvez imaginer que ce sont des cellules humaines, ici des cellules de quelqu'un réputé sain, et ici quelqu'un qui a malheureusement un cancer. Pour chaque type de cellule, j'extrais les ARN messagers. Vous vous souvenez qu'à partir de l'ADN, les gènes sont copiés et raboutés pour faire de l'ARN messager. Ça, le biologiste moléculaire sait faire. Ce qu'il sait faire aussi, c'est à partir de tous les ARN messagers donc, qui ont été extraits de la cellule, de revenir vers la séquence de l'ADN. Donc de faire des séquences correspondant exactement aux séquences du gène. Et le biologiste moléculaire va en profiter pour colorer en vert les molécules ici de la manip de gauche et en rouge les molécules de la manip de droite. Le biologiste moléculaire mélange ces deux sauces et après tartine cette sauce sur sa puce à ADN. Qu'est-ce qui va se passer ? Sur le spot numéro 1, rappelez-vous, j'avais fixé uniquement des gènes 1. Je mets dessus une solution contenant des molécules du gène 1 et puis de tous les autres gènes. Les molécules du gène en solution, ayant la même séquence que le gène que j'ai accroché sur la puce, vont venir se fixer à lui, par ce qu'on appelle le phénomène d'hybridation. Et c'est extrêmement spécifique, et l'affinité est extraordinaire. C'est-à-dire que sur les gènes 1 ne vont se fixer que les gènes 1 de la solution, marqués en vert ou marqués en rouge. Par contre, le gène 2, lui, ne se fixera pas. Et vous avez compris que sur le spot numéro 2, sur lequel j'ai fixé le gène numéro 2, vont venir se fixer les molécules de gène numéro 2 qui ont été faites par le bus moléculaire, mais pas les molécules des gènes 1 et 3. Et finalement, j'arrive à quoi ? J'arrive à quel... Non. Et finalement, supposez que dans la manip pour les cellules de gauche, le gène 1, donc marqué en vert, soit abondant, et le gène rouge, 1, marqué en rouge, soit rare. Bien sûr, sur le premier spot, j'aurai fixation de beaucoup de molécules vertes et peu de rouges. C'est la loi d'action de masse. Si sur le spot numéro 2, le gène numéro 2 correspond, n'est pas fréquent dans la manip de droite et fréquent, non, n'est pas fréquent dans la manip de gauche et fréquent dans la manip de droite, vert, rouge, et bien entendu, je vais fixer beaucoup de gènes rouges et peu de gènes verts. Et finalement, j'arrive à quelque chose comme ça, où là, vous voyez moins bien que sur mon écran, mais ici, c'est une puce à ADN qui a été faite à partir des 6200 gènes de levure, dans deux conditions de vie cellulaire différentes, et on voit bien des spots verts et on voit bien des spots rouges, c'est-à-dire que la condition correspondant à la manip verte, peut-être, par exemple, le début de la vie cellulaire, les gènes verts sont fortement exprimés. Si je suis ici en fin de vie cellulaire ou en mitose ou quelque chose comme ça, alors ce sont les gènes rouges qui sont fortement exprimés. Donc je vois bien quels sont les gènes qui s'expriment fortement ou pas fortement à tel moment de la vie de la cellule. Et les gènes qui sont en jaune, et c'est qu'ils n'ont pas bougé, il y a autant de vert que de rouge. Et ceci a des conséquences pratiques très importantes. Par exemple, mon problème, c'est d'identifier quelle bactérie ABC est présente dans un échantillon. Ça, c'est super classique d'essayer d'identifier des bactéries dans un échantillon. Pensez aux hôpitaux, pensez à tout ça. La manip est très simple. Je prends une puce à ADN et je vais décider que les deux premiers spots vont me servir à détecter la bactérie A. Vous vous souvenez que dans chaque organisme, il y a 30 à 40% des gènes qui ne ressemblent à rien d'autre et qui sont spécifiques de cet organisme. Donc c'est très simple. Sur les deux premiers spots, je vais fixer des gènes qui sont spécifiques de la bactérie A. Et puis, vous avez compris que sur les deux spots d'à côté, BB, je vais fixer des gènes qui sont spécifiques de la bactérie B. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux tester un échantillon d'eau, je vais extraire les ARN des bactéries qui poussent là-dedans, je vais faire le DNA complémentaire, je vais faire un mélange, et je vais les coller sur ma puce ADN. Si j'allume ces deux spots-là, c'est que dedans, il y a la bactérie A. Si j'allume ce spot-là, c'est que dedans, il y a la bactérie B. Et ça, ça existe pour de vrai, c'est pas du baratin de chercheurs évaporés. Par exemple, un partenariat industriel, etc., pour contrôler la qualité de l'eau potable. C'est pas du tout négligeable pour la santé publique, c'est évident. Et en plus, c'est rapide et pas cher. Hein. Plutôt que de prendre un échantillon d'eau, de faire pousser des bactéries, et puis après d'essayer de les reconnaître, etc., etc., en deux dans trois mouvements, on sait, dans un échantillon d'eau, quelles sont les bactéries présentes. Ça a un intérêt évident également en médecine, et particulièrement dans les hôpitaux. La puce ADN identifie les mycobactéries. Soit identifie les mycobactéries qui sont responsables d'une infection nosocomiale, soit identifie les mycobactéries qui ont infecté un individu. On ne perd pas de temps à essayer de faire des cultures et à identifier les mycobactéries, mais surtout avec les puces ADN, on peut savoir, si on connaît bien les mycobactéries, si on connaît les gènes responsables, par exemple, de la résistance aux antibiotiques, on peut savoir très rapidement à quel antibiotique va être résistant telle ou telle mycobactérie, et donc directement de cibler le traitement. Alors, du point de vue donc, de traitement, puisqu'on parle de thérapie, j'ai parlé au début rapidement, à gauche, je mets des cellules de quelqu'un qui est sain, et à droite, des cellules de quelqu'un qui a un cancer. Un des problèmes, un des nombreux problèmes qui se posent quand on a le cancer, c'est les leucémies lymphoblastiques aiguës et les leucémies myéloïdes aiguës, qui sont deux leucémies qui sont très difficiles à distinguer. Les manifestations cliniques sont à peu près les mêmes. Et ce qui est très gênant, c'est que le traitement n'est pas du tout le même, suivant le genre de leucémie. Et donc, il est important de savoir le plus vite possible, le plus tôt possible, de quelle leucémie il s'agit. Alors, il y a un groupe de scientifiques américains qui ont fait la chose suivante. Ils ont pris 38 patients dont ils étaient certains, 27 certains que c'était une leucémie lymphoblastique et 11 une leucémie amyloïde. Et puis, ils ont fait une puce à ADN comportant 6800 gènes humains, certains étant choisis parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un rôle dans le développement du cancer, et puis les autres au hasard. Et puis, bien entendu, ils ont fait des extraits cellulaires de ces différents patients, ils ont mis ces extraits sur la puce ADN, et regardé quel gène était allumé, quel gène était fortement allumé dans un cas, et quel gène était fortement allumé dans l'autre. Et finalement, après une analyse de ces différences de fixation sur leur puce, ils ont gardé 50 gènes. Ils ont gardé 50 gènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça supposait que ce soit une puce à ADN. Ici, chaque ligne correspond à un gène. Donc là, j'ai 25 gènes en haut, 25 gènes en bas. Chaque colonne correspond à un patient. C'est qu'on peut voir ce que, pour les 25 premiers gènes, massivement, les patients atteints de leucémie lymphoïde s'allument en rouge, sont fortement exprimés. Par contre, les patients atteints de leucémie myéloïde, ces gènes-là sont faiblement exprimés. Et c'est l'inverse pour les 25 gènes suivants. Majoritairement, ici, pour la famille lymphoblastique, les gènes sont ici faiblement exprimés, alors que dans les myéloïdes, les gènes sont fortement exprimés. Donc, supposez que le médecin dispose d'une puce comme ça, ADN, il fait un prélèvement sanguin chez son patient, il extrait les ARN, il prépare les CDNA, il colle ça sur sa puce, et suivant le profil d'expression des gènes qu'il a repérés, il saura très vite et de façon pratiquement certaine de quelle leucémie il s'agit et donc de quel traitement doit bénéficier le patient. Alors tout ça, ça a l'air bien beau, c'est beau, la vie est belle, la vie est rose, le ciel est bleu. C'est pas tout à fait le cas, ça vous le savez bien. Par exemple, il y a quelques années, il y a une boîte américaine qui a sorti un test pour détecter des mutations dans un gène qui s'appelle BRCA1 et qui prédispose au cancer du sein ou au cancer de la prostate. Quand une femme porte dans son génome le gène BRCA1 muté, elle a 85% de plus que les autres d'avoir un cancer du sein. Si c'est un homme, il a 45% de plus d'avoir un cancer de la prostate. Donc, les premières réactions étaient très positives, en disant on va faire subir le test à tout le monde, et en particulier aux femmes, et comme ça, on va savoir lesquelles sont plus ou moins susceptibles d'avoir un cancer du sein. Le problème, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que le cancer du sein, on ne sait pas le prévenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire attention, et puis quand il est là, faire ce qu'on peut. Donc, le résultat, et ça, bien sûr, ça n'a pas échappé à quelques médecins quand même, le résultat, c'est que si on fait ce test, et si une femme a la mutation BRCA1, elle va être épouvantablement inquiète, mais pour rien. Ça ne sert à rien, on ne veut pas prévenir. Et il y a de plus en plus de femmes aux États-Unis qui se font faire ce genre de test et qui se font faire des mammectomies préventives. Ce qui est pour le moins invalidant d'une part, et en plus, ça ne sert à rien non plus, parce que le cancer peut se développer quand même. Et à contrario, si on fait faire le test à une femme et que cette femme n'a pas la mutation BRCA1, alors elle peut se dire faussement, alors j'ai moins de chances d'avoir un cancer, je ne fais plus attention. Donc ça pose quand même des problèmes qui sont vraiment pas simples pour un médecin. Faut-il ou ne faut-il pas faire subir ce test aux femmes, surtout et aux hommes un petit peu? La réponse n'est pas simple. Et bien entendu, ce genre de test, vous l'avez sûrement lu et vous le savez bien, ça pose d'autres problèmes. On peut très bien imaginer un assureur, si vous voulez vous assurer sur la vie, un assureur qui vous fait subir toute une série de tests et qui vous dit « Oh là, non, 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 là, vous avez quelque chose qui vous prédispose de telle maladie, je ne vous assure pas ». Ou bien un employeur qui vous fait subir la même batterie de tests et qui dit « Oh là là, non, dans 10 ans, vous allez crever, je ne vous engage pas ». Et ça, c'est arrivé pour de vrai. C'est arrivé pour de vrai. Le test génétique va du labo au tribunal. Alors ça, que les Américains fassent des procès à d'autres Américains, c'est pas un scoop. Par contre, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est une compagnie qui profitait des prises de sang qui étaient faites dans le cadre régulier de la médecine du travail pour faire des tests de recherche de maladies, de prédisposition aux maladies à ses employés et de foutre à la porte les employés qui avaient ces mutations. Ce qui est quand même assez épouvantable. Alors, voilà, j'ai terminé. J'ai été un peu plus rapide que prévu. Je pense que les organisateurs seront contents. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est donc ce que j'ai un peu dans la tête et ce qui, moi, me paraît important, la phylogénie d'un côté, et puis essayer de régler ce problème des races supérieures, des races inférieures. De l'autre côté, les puces à ADN qui d'un certain point de vue, pour le thérapeute, sont d'une puissance absolument extraordinaire, mais qui, bien entendu, posent des problèmes moraux, des problèmes éthiques assez épouvantables, assez difficiles. Et j'avoue que tout n'est pas noir, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc. La réponse, moi, je ne l'ai pas. Faut-il ou ne faut-il pas faire des tests, ne pas faire des tests? J'en sais rien. Merci.
Je vais peut-être poser une question tout à fait secondaire, mais c'est au sujet, disons, de la structure de l'ADN dans le noyau. Si vous voulez, on sait que quand le noyau se prépare à la division, il y a des chromosomes. Mais dans la période dite interphasique, les chromosomes disparaissent. Et peut-être vous le savez, mais ça va donner un réseau diffus de filaments. Est-ce que ça va constituer un filament unique ? Ou est-ce que la répartition en chromosomes continue, subsiste ?
Je n'en sais absolument rien.
Ah.
J'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas de raison que la répartition en chromosomes perdure. Le problème de...
Donc il n'y aurait qu'un filament unique.
Il y aurait un amas invraisemblable d'une pelote de filaments
continue.
Non, il y a 23 paires de chromosomes.
Oui, chez l'homme.
Mais ces 23 paires de chromosomes, il n'y a que dans une pensée qu'ils se raboutent physiquement. Non, ils restent séparés. Ils se mélangent, si vous voulez, mais en restant séparés.
Bon. Avez-vous une idée sur le rôle des introns ?
Ah, ça c'est une c'est une sacrée question ça. Bon, d'abord la manière de poser la question, excusez-moi, mais elle n'est pas bonne.
Bon.
Il ne faut jamais dire quel est le rôle de telle ou telle chose, parce que quand on dit le rôle de telle ou telle chose, on pense que encore une fois l'évolution veut que un but. Pourquoi est-ce qu'il y a des introns ? Pourquoi est-ce que les introns ont été retenus ? C'est plutôt ça la question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été éliminés ? Donc, quelle est leur fonction ? Oui. Je pense que la question, c'est plutôt de dire quel est le rôle des exons. Ça a l'air idiot, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est, dans le génome d'une bactérie, le génome d'une bactérie est extrêmement compact. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement que des gènes. Et puis les régions intergéniques sont très courtes. Le génome humain, c'est quelque chose d'invraisemblable. Il y a à peu près entre 1,5 et 2% du génome humain qui correspond aux gènes. Le reste, 98% du génome humain, ne sont pas des gènes. Sur ces 98%, on a bien une idée, il y a quand même des régions régulatrices, des régions promotrices, des tas de choses, on sait à quoi ça sert. Mais il reste très largement 80% de la séquence du génome humain dont on n'a aucune idée de la fonction. Vraisemblablement, sur ces 80%, il y en a 60% qui effectivement ne servent à rien. Sauf que le génome d'une bactérie étant extrêmement compact, il y a des gènes partout. Si vous insérez là-dedans un morceau d'ADN, il y a de grandes chances que ce morceau d'ADN aille dans un gène et qu'il le tue. Enfin, qu'il fasse un gène qui n'est plus fonctionnel. Chez l'homme, vous avez 98% de la séquence qui ne sont pas des gènes. Si vous insérez quelque chose, ça ne fera rien. Ça ne va pas toucher un gène. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, les exons. Les exons, on pense que les exons, ils peuvent bouger, ils peuvent se dupliquer. C'est très classique, la duplication. Et en dupliquant un exon ici et un exon là, et en les mettant par hasard à côté l'un de l'autre, je vais faire un nouveau gène et une nouvelle protéine. Et ça, il y a des tas de données sur les séquences de protéines. Ça abonde dans tous les sens. Des protéines qui sont faites de petits domaines et qu'on retrouve un domaine dans une protéine et un autre domaine dans une troisième et un autre dans une quatrième, etc. Tout ça, c'est un bricolage ahurissant, mais c'est un bricolage qui est permis par le fait qu'il y a des exons qui peuvent bouger, qui peuvent être copiés, d'une part, et d'autre part, parce que le génome, il y a beaucoup de place, on peut faire beaucoup de choses dessus sans que ça fasse de mal. Donc le rôle des introns, j'en sais rien. Le rôle des exons, oui.
Dans les cas relativement simples, où, par exemple en pathologie, la maladie est monogénique, ou lorsqu'on connaît la fonction, tout au moins l'influence du génome sur la fonction, est-ce qu'on connaît les stades intermédiaires, c'est-à-dire entre le gène et entre le génotype et le phénotype. Est-ce qu'il y a des mécanismes connus entre le gène, d'une part, et le phénotype, d'autre part?
Oui, dans certains cas, c'est bien documenté. En général, ce qu'on connaît, c'est le rôle de la protéine. Hein, un gène code pour une protéine, et c'est la protéine qui a une certaine fonction. Alors, dans certains cas, c'est extrêmement bien documenté. Par exemple, dans le cas de l'anémie falciforme, qui est une mutation dans le gène de l'hémoglobine qui fait que les globules rouges ont une forme de faux, etc., et que l'hémoglobine s'agrège, fait des filaments et tout ça. Oui, la physico-chimie, tout ça, on la connaît très bien. Dans certains cas, on connaît vraiment très bien la raison pour laquelle telle protéine qui n'est pas normale produit tel effet. Dans d'autres cas, bien sûr que non. Dans la majorité des cas, c'est sûr que le gène BRCA1, par exemple, qui est susceptibilité au cancer du sein et tout, je ne pense pas qu'on sache exactement pourquoi ça marche comme ça. On sait que ce gène est responsable d'eux, mais pourquoi, non, ça, on ne sait pas. Mais je crois qu'il faut voir deux choses. Pour le thérapeute, ce n'est pas très important, dans un premier temps, de savoir le fonctionnement exact. Ce qui est important, c'est comme on a vu avec les puces à ADN, sur les 50 gènes qui étaient là, peu importe s'il y en a 25 dont j'ignore la fonction. Ce qui m'importe, c'est que ces 25 gènes me servent à détecter à quel type de maladie j'ai affaire. Ensuite, bien sûr, le biologiste moléculaire, lui, il essaiera de savoir la fonction dans le détail. Mais dans un premier temps, le thérapeute, ça lui est égal. Oui, vous voyez ce que je veux dire.
Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si, dans ce que vous appelez la génétique classique, où on observe un phénotype et qu'on essaye de trouver le gène correspondant,
oui.
On pratique du codage inverse, c'est-à-dire on se dit, par exemple, pour telle protéine, il faudrait telle séquence, et qu'on essaye de chercher une séquence précise dans le génome, ou si on procède plus au hasard.
Ça peut se faire. Ça peut se faire, effectivement. J'ai un phénotype. Et le biogéniste ou généticien isole une protéine dont il pense qu'elle a de grandes chances d'être impliquée dans ce phénotype, et à partir de la séquence de la protéine, d'essayer d'en déduire la séquence du gène et donc de pêcher le gène. Alors le problème dans ça, c'est que un acide aminé dans une protéine correspond à 3 lettres dans l'ADN. Comme il y a 4 lettres différentes à TGC, vous avez 64 triplets possibles, hein, depuis AAA jusqu'à TTT. Et puis tous les intermédiaires AUU, ATA, AGC, TAG, etc. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence du code génétique. C'est-à-dire qu'un triplet donné de base, plutôt à plusieurs triplets différents, peuvent correspondre au même acide aminé. D'accord ? Donc, quand vous avez un acide aminé sur une protéine, vous ne savez pas forcément à quel triplet ça correspond dans l'ADN. Et donc, le petit jeu est très rapidement limité.
Oui, excusez-moi, en haut, on entend très mal, alors, mais ma question vous surprendra peut-être. C'est une question sur le séquençage.
Oui.
Bon, il ne m'est pas apparu très clairement quelles sont les règles pour pratiquer ce séquençage. Est-ce que c'est systématique, les mêmes longueurs, au hasard, au départ? Ou est-ce qu'il y a des points de repère, des règles que l'on repère avant de procéder au séquençage?
Les deux. Quand il s'agit de bactéries, le génome est suffisamment petit pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir des repères. On découpe le génome de la bactérie en petits morceaux. On séquence ces petits morceaux, on les réassemble. Ça n'est pas vrai, malgré des annonces triomphalistes de scélérats. Ça n'est pas vrai encore chez les organismes supérieurs et chez l'homme en particulier. On a besoin, au préalable, de mettre des balises, de repérer des balises sur le génome, des microsatellites, etc., etc., de façon à savoir, ne serait-ce que je travaille sur une séquence du chromosome 12 ou du chromosome 23, ne serait-ce que ça, c'est déjà important. Ensuite, de savoir à peu près dans quelle région je travaille sur le chromosome 12 ou le chromosome 23. Mais ce qui est assez épouvantable chez les organismes supérieurs, c'est que le génome est bourré de petites séquences répétées. Les séquences répétées, c'est que vous pouvez avoir une séquence de 4 nucléotides, je dirais AGTC, qu'on va trouver à la queue leu-leu 100 000 fois. Ou bien des séquences un peu plus longues, d'une centaine de bases, mais qu'on va trouver à la queue leu-leu 10 000 fois. Ces régions-là sont absolument inséquençables, c'est bien évident. Quand vous découpez en petits bouts, le petit bout qui est là, qui a la même séquence que le petit bout qui est là, qui a la même séquence que le petit bout qui est là, on ne peut pas les mettre dans l'ordre. Et l'astuce dans ces cas-là, c'est de produire des morceaux de chromosomes qui sont beaucoup plus longs, qui font par exemple 10 000 bases, de ne séquencer que les extrémités, et une fois qu'on a rabouté, qu'on a remis en ordre à peu près tous les petits bouts, de comparer ces extrémités avec ceux qu'on connaît déjà, et en disant, ah bah oui, alors ce morceau-là, il est ici, et celui-là, il est là, et entre les deux, ça se débrouille. On laisse tomber ce qu'il y a entre les deux. Donc, suivant la taille du génome, effectivement, la stratégie est différente.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ma question porterait sur le... Si vous pouviez nous dire un mot sur l'utilisation du séquençage en criminologie. Et où en est le fichier actuellement de...
Alors là, où en est le fichier? Ça, j'en sais absolument rien. En criminologie, justement... Ce qu'on utilise, ce sont en fait précisément ces régions répétées dont je viens de parler. Parce que ces régions répétées sont extrêmement variables d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que chez vous, telle région donnée de l'ADN, vous aurez un petit morceau, une petite séquence qui sera répétée 5 fois, puis chez moi 6 fois, puis chez vous 15 fois, et puis etc. etc. Et ces régions-là sont très nombreuses. Donc, ça fait une variabilité qui est absolument gigantesque. Si vous êtes suspecté d'avoir commis un crime, donc on fait un prélèvement sanguin chez vous, par exemple, ce sont ces régions qu'on va étudier, et on va dire, cette région-là, chez lui, il y a 5 répétitions, là, il y en a 15, là, il y en a 20. Et si on compare avec moi, on dira, là, au lieu de 5 répétitions, il y en a 6, là, il n'y en a pas 15, mais il y en a 16, là, il n'y en a pas 20, il y en a 30. D'accord? Et on dira, donc, c'est lui le coupable et c'est pas moi. Ça c'est à peu près... Il n'y a pas de problème. S'il y a des différences, c'est clair, c'est pas le coupable. S'il n'y a pas de différence, on admet qu'il y a une chance sur 150 milliards que ce soit dit au hasard. La chance ne peut pas être nulle, ça n'existe pas. La probabilité ne peut pas être strictement nulle, mais elle est vraiment très faible. Donc ça marche bien, on peut dire que si c'est bien fait, ça marche bien. Maintenant, où en est le fichier? Aucune idée. Là, vraiment aucune idée.
Oui, bonjour, c'est une question d'ordre plutôt éthique. Moi, j'ai entendu parler dans la presse, il y avait des firmes privées qui voudraient s'approprier le génome humain et le breveter afin d'en retirer les droits d'auteur, etc. Est-ce que vous pourriez m'éclairer là-dessus?
C'est vraiment une question... je ne sais pas si vous vous souvenez que l'année dernière, ou il y a 2 ans, messieurs Blair et Clinton ont fait une déclaration tonitruante en disant que la séquence du génome humain appartenait à l'humanité, c'était notre patrimoine, et que par conséquent, la séquence du génome humain serait publique. Alors, on peut d'abord remercier M. Blair et Clinton d'avoir fait cadeau de notre propre patrimoine, quand même. Et ensuite, c'est quand même pour le moins vicieux, leur truc. Parce que, comme j'ai essayé de vous le montrer, quand on a la séquence complète d'un génome, on n'est pas plus avancé. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de repérer les gènes, de repérer les régions promotrices, de repérer les régions régulatrices. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est l'analyse qui vient après. Donc, moi, me donner la séquence de mon génome, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ça ne sert à rien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que personne ne peut empêcher une compagnie privée de séquencer ce qu'elle a envie de séquencer et de se le garder pour elle. Pas forcément de le breveter, mais simplement de se le garder pour elle, ce qui est évidemment contraire à toute éthique scientifique où, en principe, on met tout à la disposition du public. Mais vous vous souvenez que sur les 250 bactéries dont j'ai parlé qui sont en cours de séquençage, ça, ce sont des séquençages connus et dont les résultats seront publics. On pense qu'il y en a au moins autant qui sont séquencés dans les boîtes pharmaceutiques et qui ne seront rendus publics que le jour où ça ne servira plus à rien. Bon. Alors, le problème est-ce qu'on peut breveter un gène? Alors, à ma connaissance, sauf quelques exceptions qui datent déjà d'un certain temps, on ne brevette pas la séquence d'un gène, ce qu'on brevette, c'est l'application qu'on peut en tirer. C'est-à-dire, ce qui est breveté, par exemple, c'est le kit de diagnostic du gène BRCA1 pour les prédispositions à un cancer du sein. Ce qui est breveté, c'est de dire la mutation de A en T à la position 232 fait que. Et mon kit, il est destiné à repérer cette mutation A, T en position 232. Et ça, je l'ai breveté. Mais si, par contre, à ma connaissance, hein, si par contre quelqu'un découvre que le même gène BRCA1 muté ailleurs est responsable de, je sais pas, de l'ulcère de l'estomac, alors il pourra breveter, lui, une autre application du même gène. Bien. Ceci dit, bien sûr, on est choqué en disant nos gènes, c'est nos gènes, il n'y a pas de raison que les pharmaciens se fassent du fric sur notre dos. C'est pas si simple que ça. D'abord parce que les compagnies pharmaceutiques, eh ben, il faut bien qu'elles vivent. C'est vrai. Alors, c'est leur argument classique. Si vous nous coupez de l'argent, on ne fera plus de recherche. S'il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de médicaments. C'est vrai. La question est peut-être de savoir si elles font trop de bénéfices. Mais qu'elles fassent des bénéfices, c'est normal. Et les bénéfices, c'est à faire de la recherche et à faire des médicaments. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas trop tirer à boulet rouge dessus. D'autre part, qu'est-ce que c'est qu'un gène ? Un gène, on peut dire, un peu bêtement, c'est une molécule naturelle. Une molécule naturelle qui existe dans la nature. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre un gène, entre la séquence d'un gène, et la structure chimique de la quinine ? La quinine, c'est une molécule naturelle qu'on trouve dans des arbres en Amérique du Sud. Est-ce que j'ai le droit de breveter la quinine ? C'est un petit peu la même chose, sur le fond. Je n'ai pas inventé la quinine, je brevette son application. Je n'ai pas inventé la séquence du gène, je brevette son application. Alors que ce soit choquant, que ça pose des problèmes, c'est clair. Sans parler de séquences de gènes, la trithérapie du sida, etc., qui coûte trop cher pour les pays en voie de développement, c'est clair qu'il y a des problèmes graves. Mais la réponse n'est pas si simple. Si on interdit aux compagnies pharmaceutiques de breveter les applications de la génomique, il n'y aura plus de génomique, il n'y aura plus de médicaments.
J'ai appris que les gènes étaient polymorphes, à savoir que leur écriture pouvait varier d'un individu à l'autre. Alors, je voudrais que vous repreniez la comparaison là, qui m'a paru simple entre la comparaison d'un gène d'homme, de chimpanzé et de gorille. Parce que est-ce qu'on ne peut pas orienter un peu les comparaisons et est-ce qu'au départ, ces gènes n'étaient pas variables ?
Si, vous avez tout à fait raison. D'abord, si vous êtes une femme et si je suis un homme, c'est qu'il y a une différence dans notre génome. Ça, on le sait, c'est le chromosome X, le chromosome Y. Mais si je regarde monsieur à côté de moi, on ne se ressemble pas. Et on ne se ressemble pas, ben c'est parce que nos gènes sont différents, tout simplement. Et donc, ça s'appelle l'allélisme. Dans la population, personne n'a exactement le même gène. Il y a toujours des petites différences qui s'accumulent à gauche et à droite. Bien entendu, si on est là et si on vit et si vous m'écoutez et si je vous parle, c'est parce que les différences entre mon génome et le vôtre, c'est qu'elles ne sont pas importantes et que tout se passe bien. Mais effectivement, parler du génome de l'homme, ça n'a pas de sens. C'est tout à fait vrai. Le génome de l'homme, avec un grand H évidemment, qui a été publié, est en fait, à ma connaissance, un génome composite de 5 individus. Et puis, si on avait pris quelqu'un d'autre, il y aurait sans doute quelques différences. Mais précisément, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a un génome de référence, c'est un génome entre guillemets, donc, puisqu'il est particulier aux individus qui ont servi à faire le génome, et maintenant, ce qu'on cherche, c'est systématiquement les différences entre telle position du génome publié et puis les mêmes positions chez vous. Ça s'appelle le polymorphisme, effectivement. D'où l'étude des populations, d'où etc. Peut-être, arriver à montrer que les races, il n'y a pas de différence quantitative entre un blanc et un noir.
Je voulais savoir comment on s'y prend lorsqu'on est en présence, de gènes dont on ne connaît même pas la fonction, pour savoir qu'on est effectivement, dans le fatras de l'être, en présence d'un gène. En d'autres termes, c'est par exemple si je suis devant un texte dont je ne connais pas la langue, qu'on peut écrire en finnois, et dont je n'ai même pas la ponctuation et les blancs, comment je fais pour repérer qu'il y a des phrases à tel endroit ? Alors un finnois saura peut-être, mais moi non.
Il y a quand même une méthode qui marche, il n'y a pas de problème. J'ai repéré par l'informatique une région où je pense qu'il y a un gène. Et je dis bien, je pense que. C'est un gène putatif, je ne suis pas sûr. Si ce gène est vraiment un gène, il est quelque part, à un certain moment, il va être transcrit en ARN, de façon à faire une protéine. Donc, si je repère dans la cellule l'ARN correspondant à ce gène, je suis sûr que c'est un gène. D'accord ? Je ne sais toujours pas à quoi il sert, mais je suis sûr que c'est un gène. Et c'est comme ça, par exemple, que chez la levure, dès 1996, on était certain que les 6200 gènes qui avaient été identifiés dans le génome étaient vraiment des gènes, parce que par ailleurs, on avait les transcrits, on avait les ARN correspondants. S'ils sont transcrits, s'il y a un ARN, c'est que c'est un gène. D'accord ?
Lorsque vous dites qu'on séquence un gène, du coup, on est obligé de faire des recoupements. Parce que c'est-à-dire que lorsqu'on séquence, on perd la notion d'ordre.
Complètement. Et quand on a séquencé les petits morceaux, les petits fragments de 1000, pourquoi ? Parce que je prends un chromosome entier, ce chromosome, je le mets dans une sauce dans laquelle je mets des enzymes, en particulier des enzymes de restriction, qui vont me couper à des endroits précis, et puis c'est mélangé. Alors après, je les sépare par chromatographie, tout ce que je veux, ces petits morceaux. Mais c'est mélangé, il n'y a plus d'ordre.
Donc il faudra inventer un système qui, quand il coupe, il marque à droite et à gauche, en fait.
Ouais. Mais il faudrait beaucoup de marqueurs. Hein.
Troisième question, lorsque on parle de... Pour l'être humain, bon, l'être humain a, par exemple, 30 000 gènes. Donc on a tous les mêmes gènes.
En gros, oui.
La différence entre nous tous, c'est, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est des problèmes d'allélisme.
Oui.
Est-ce que on dit par exemple sur le chimpanzé il n'y a que 2% de différence au niveau du génotype entre l'homme et le chimpanzé, mais si ça se trouve on a peut-être exactement le même nombre de gènes que le chimpanzé et la différence est peut-être uniquement dans les allèles. Est-ce que c'est envisageable une approche comme celle-là ou pas?
Alors c'est clair, d'ailleurs le génome du chimpanzé est en cours de séquençage, hein, ça, vous vous en doutez. C'est clair qu'il y a extrêmement peu de différence entre les génomes de l'homme et les génomes du chimpanzé, quoique quand même, hein, il n'y a pas le même nombre de chromosomes, par exemple, chez le chimpanzé et chez l'homme.
Ah oui, d'accord, alors c'est... ma question tombe à l'eau.
Non, la question ne tombe pas à l'eau, c'est vrai que globalement, il y a extrêmement peu de différence, et on en revient à la question que j'ai évoquée tout à fait au début, ce qui importe, ce n'est pas tellement le nombre de gènes, c'est les relations entre les gènes. Toutes les régulations très compliquées qui font qu'encore une fois, ma tête est en haut de mon corps et mes pieds en bas, et pas l'inverse. Mmh. Et ben, le développement, c'est clair qu'un embryon humain ne se développe... Si l'embryon se développe à peu près, l'embryon humain à peu près comme un embryon de chimpanzé, il n'y a pas de grosse différence, c'est après que le développement devient très différent. Et le développement, c'est dû à une cascade, à une foultitude de régulations extrêmement fines. Toi, tu vas aller t'exprimer à tel moment, à tel endroit. Toi, tu vas t'exprimer à tel moment, à tel endroit. C'est épouvantablement compliqué. Et c'est vraisemblablement plutôt là qu'est le truc. C'est toutes les interactions, toutes les régulations entre les différents gènes. C'est pour ça que j'insiste bien. Que l'homme ait 30 000 gènes et le nématode 20 000, moi, ça ne me dérange pas. Tout est une question de régulation. Enfin, très vraisemblablement, c'est ce que tout le monde pense. Ce n'est pas le nombre de gènes, pas tellement.
Alors. Bon, puis ma dernière question. au niveau donc, des acides aminés, on sait qu'il n'y en a que 20, alors qu'on aurait pu en avoir 64. Pourquoi il y a eu une dégénérescence? Est-ce que ça veut dire que... certaines combinaisons différentes au niveau des nombres de lettres induisent à une même structure au niveau spatial et donc conduisent à la même protéine, ou alors il y a des impossibilités topologiques.
Non, c'est pas ça. Il n'y a que 20 acides aminés, effectivement, il peut y en avoir 60. Avec le codon stop, il y en a 62, il y a 3 codons stop, ça fait 61, bon, peu importe. D'abord, pourquoi ceux-là et pas d'autres? Un acide aminé, un chimiste est capable d'en synthétiser 56 000 dans sa journée, différent. Pourquoi c'est ces 20-là qui ont été choisis et pas d'autres? Première question. On peut dire, oui, bah, ils ont des propriétés différentes, tel acide aminé est hydrophile, tel acide aminé est basique, tel acide aminé est hydrophobe, tel acide aminé est acide, d'accord. Mais des acides aminés basiques, je peux en faire 50 000. Alors pourquoi c'en est un, l'alésine, l'arginine qui a été choisie et pas d'autres? Ça, franchement, on n'en sait rien. Il y a eu des hypothèses dans les météorites, vous savez, l'atmosphère primitive, dans un tube à essai, je mettais de l'ammoniac, de l'eau, du CO2, etc., je mettais des décharges, on faisait 3, 4, 5 acides aminés, mais finalement, guère plus. Hein. Alors, pourquoi ceux-là et pas d'autres? Personne n'en sait rien. Pourquoi 20 et pourquoi pas 60? Personne n'en sait rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est vraisemblablement, c'est que l'évolution, elle fait feu de tout bois, et puis finalement, elle est assez économe, et puis elle fait souvent du neuf avec du vieux, et qu'elle a trouvé son bonheur avec 20 acides aminés, et que ça marchait bien avec 20 acides aminés, pourquoi diable se compliquer la vie en faire 21? Je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Il faut toujours, j'insisterai jamais assez là-dessus, l'évolution est complètement contingente. Complètement contingente. Nous sommes là par un hasard extraordinaire, et comme dit Jay Gould, si on retournait le film à l'envers, et si on le reprojetait, on ne serait plus là. Très vraisemblablement. Tout ça, c'est un hasard total. Ça marche comme ça, et bien ça marche, on le garde, et puis voilà. Je ne pense pas qu'il faille chercher toujours pourquoi 20, pourquoi... Je ne pense pas que ce soit la bonne question.
Jean-Louis Sléa, merci.